en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Roger Taillibert est l'architecte du Parc des Princes et du Stade Olympique de Montréal. Adepte de la courbe, refusant l'angle droit pour libérer l'esprit, l'architecte, élu en 1983 au sein de l'Académie des Beaux-Arts, cherche depuis toujours à créer au-delà de ce qu'il voit en deux ou trois dimensions. Lui, qui dit ne s'exprimer vraiment qu'en dessinant, est aussi peintre. « La lumière est traversière », nous dit-il. Il cherche à ce qu'elle traverse son architecture comme elle traverse ses toiles. Aujourd'hui, l'émission En habit vert aborde son parcours, son œuvre, pour entrer dans la vision architecturale de cet homme, né en 1926, dont l'épée d'académicien reprend la forme du Stade olympique de Montréal, dont la flèche en courbe de béton précontraint est l'emblème. Roger Taillibert, bonjour et bienvenue à Canal Académie.
Bonjour.
Alors, vous êtes aussi peintre, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on ne sait pas forcément de
vous.
Pourquoi ?
Parce que je pense une chose, que la peinture, c'est aussi de l'architecture. Parce qu'il y en a, dans le dispositif de peindre, il y a une matière que l'on traite et dans laquelle la lumière doit apparaître, la vivacité de l'action doit aussi se retrouver. Et même quelquefois, comme je le dis toujours et comme le disait mon ami Rothko, quitter le cadre de la toile. Car toute pensée qui est sur une toile doit aller au-delà. Elle doit faire réfléchir bien au-delà de l'idée exprimée. Ici, il s'agit de couleurs. La couleur est là pour vraiment, comme une portée de musique, vous donner un concert que vous devez pouvoir capter. Mais ce concert, il se capte comme normalement, à travers les sons dans tout l'espace. Et la peinture, c'est aussi un lieu qui est fait pour l'espace, qui n'est pas fait que pour un lieu défini et étroit. C'est l'inverse. C'est pour ça, traversons les cadres.
Alors, traversons les cadres. Une peinture est aussi une architecture, dites-vous. Et on le comprend assez aisément, mais l'architecture est-elle une peinture ? Est-ce que vous pourriez parler de cette réciproque ?
Dans l'architecture, la réciprocité est différente. Car l'architecture, c'est un volume, trois ou quatre dimensions. Et l'architecture occupe l'espace. Mais la peinture occupe aussi l'espace, si on sait bien la regarder. Les deux éléments ne sont pas, ce sont frères, mais l'architecture, évidemment, est le domaine supérieur dans tous les arts graphiques, puisqu'elle exprime avec la main de l'homme l'esprit, si on peut dire, que sa main a guidé pour réaliser des volumes extrêmement différents, intéressants, allant de la beauté à l'émotion. Ce sont des éléments. La peinture est aussi émotive. Les couleurs, la joie des couleurs, assemblées, quelquefois, comment dirais-je, traitées de façon très discrète, suggèrent une vie qui est secrète, qui se trouve dans les couleurs et que vous voyez apparaître. C'est ainsi que dans beaucoup de mes peintures, vous pouvez avoir énormément de genres de sport, de football, de basket, de volley, de tennis, de danse. Je les fais apparaître et disparaître dans la toile parce que pour moi, ils occupent en permanence un espace. Et cet espace, je leur donne avec une association permanente de couleurs. C'est la plupart de mes réalisations dans le domaine où les êtres humains apparaissent, ou même les animaux, les chevaux, tout ça. Ils doivent être présents, mais sans vraiment avoir le figuratif total. Je suis contre le figuratif. Au même titre que je suis contre l'architecture classique qui a meublé, bien avant la Renaissance, avec les Romains, continué jusqu'à ce jour. Et malheureusement, de nombreux confrères pensent qu'ils font de l'architecture contemporaine alors qu'ils construisent avec des poteaux et des poutres et que c'est simplement de l'architecture romaine qui date de plusieurs siècles qui continue à s'exprimer. Le modernisme n'existe peu dans le domaine de l'architecture. Il y a une translation des données du classicisme et peu d'architectes ont le domaine de l'invention et de la création. C'est un grand désespoir.
On évoquait la peinture et vous disiez que la peinture avait énormément d'importance pour vous. La couleur en architecture semble plus uniforme, on va dire. Et votre architecture, pour ceux qui vous connaissent en amateur, est reliée au béton. Oui. Dans le béton,
pas
il y a
toujours
pas
béton.
Toujours du béton. Hein. Je dis
pas
pour
toujours.
Les ouais, de ouais. façon un peu.
Mais c'est vrai
en
que
résumé.
J'ai vraiment voulu traiter le béton. Le béton étant le matériau du pauvre et qui permet ainsi de construire pour de façon économique et de former tout l'espace sous forme de sculpture où les courbes agissent énormément. Grâce à la géométrie habile utilisée par l'architecte.
Roger Taillibert, où est-ce que vous avez fait vos études d'architecture juste après la guerre ?
Après la guerre, n'oubliez pas qu'après la guerre, il y avait d'abord des études de second degré parce que j'avais été pris par les Allemands, privé de collège. J'ai donc dû faire le rattrapage par des moyens rapides entre professeurs privés et passer tous les examens, baccalauréat et autres, pour pouvoir accéder à l'école des Beaux-Arts.
Ce que vous avez
et l'école des Beaux-Arts, où on était
à Paris.
1200 candidats ici, à côté,
Quai Malaquais.
Et il y avait 100 places par an. Bon, je ne suis pas rentré du premier coup. Je suis rentré, c'est vrai, je crois, la troisième fois, où je suis rentré dans les premiers, dans les 5 premiers. Mais avec quand même une bataille qu'il fallait livrer, tant sur le plan dessin, graphique et esprit d'architecture qu'il fallait donner.
Cette période qui correspond aussi en France à une période de reconstruction et une effervescence.
C'était le début de la reconstruction.
Voilà. A-t-elle influé sur votre état d'esprit d'étudiant ?
Oui, ce fut une des choses, j'ai déjà dit dernièrement à la télévision américaine, que pour moi, la France était à reconstruire. Et comme je sortais d'un milieu paysan, c'est-à-dire où la nature existait, j'avais été élevé pas loin d'une ferme, nous possédions aussi une ferme. Donc, au milieu de rivières où je faisais du canot et tout, j'étais donc en permanence dans le paysage de mon village, uniquement lié à la nature. Donc, c'était pour moi un transfert extraordinaire de venir sur Paris, de redécouvrir ce que mon père m'avait fait découvrir, mais de penser, de voir Orléans qui était complètement en désastre, de voir Vierzon la même chose, et d'autres villes, Tours. Et tout ceci, je me suis dit, c'est quand même un lieu où il faut vraiment aller voir ce que nous pouvons faire. Et c'est à partir de là, parce qu'il y avait, chez moi, mon père avait des ateliers d'ébénisterie. Donc, il travaillait pour les châteaux de la Loire. Et il y avait des peintres, des sculpteurs, des doreurs qui venaient chez nous et qui parlaient toujours d'architecture et qui, en vérité, m'ont introduit dans l'esprit cette espèce de profondeur de l'architecture, en disant « c'est très difficile, mais il faut essayer ».
Roger Taillibert, jeune étudiant, que représentait à l'époque la figure imposante de Le Corbusier ?
J'ai connu Le Corbusier, et d'ailleurs, puisque mon diplôme que j'ai fait comme architecte était la piscine de Deauville, qui était de Walmas, ce qui prouve qu'il a été réalisé. J'ai eu la chance de le réaliser. Mais en même temps, je visitais la semaine dernière une résidence. Chose curieuse, une personne me téléphone, voilà 15 jours, et m'a dit « je voudrais vous connaître, j'ai acheté votre maison ». Je dis « mais j'ai pas de maison ». À la Ferté-Alais. Il est vrai que dans la forêt de la Ferté-Alais, sur des rochers, j'avais construit une maison dans l'esprit de Le Corbusier. Une très belle maison, elle fait 600 mètres carrés, elle est grande. Les rochers sont là et tout, en porte-à-faux et tout. Elle m'a dit « je veux que vous veniez me voir ». Mais elle vient me voir avant. Elle arrive chez moi avec un bouquet de roses pour me remercier de la maison qui était très belle d'après elle. Elle me dit « c'est un rêve pour moi de vivre dans cette maison ». Je dis « bien entendu, j'irai vous voir pour voir dans quel état, 50 ans après, est cet ouvrage ». Je suis allé voir samedi. L'ouvrage n'est pas mal entretenu. La piscine, tout ça est en ordre. Ce qui est mal entretenu, c'est qu'on a coloré les murs. Moi, j'avais fait une maison toute blanche. Et on a mis du jaune, on a mis des couleurs un peu ocre qui vraiment ne vont pas, qu'il faut enlever. Mais tout l'intérieur, rien n'a été abîmé, au contraire. Donc, ce qui veut dire que là, j'étais influencé complètement par Le Corbusier. Ceci en est un exemple, d'ailleurs. Et Le Corbusier, je l'ai connu.
Voilà,
je
l'ai connu rencontré.
Pour l'exposition universelle de Bruxelles. C'est là où je l'ai rencontré plusieurs fois. J'étais même avec lui dans son pavillon à Bruxelles. Quand il faisait des critiques sur la réalisation, qu'on ne lui avait pas faite exactement comme il pensait, il était là, présent.
Quel souvenir d'homme vous gardez de lui ?
Comme j'ai connu quand même pas mal de grands architectes, et c'est un homme pour moi qui avait une influence de toute façon.
Oui,
parce qu'il avait bousculé le classicisme. Et en bousculé tout cet esprit de cette maison ici, il ne faut pas oublier que c'était la maison hyper classique, Grand Prix de Rome et tout. Tout était ici, dans cette maison.
La maison, vous parlez de l'Institut, de l'Académie.
De l'Académie, oui. tout était ici, tenu par quelques personnages importants, et sous leur influence, rien n'était possible, mais qui tenait la majorité de la reconstruction. Le Corbusier, d'origine suisse, voyageait en France et avec difficulté arrivait à peine à se faire connaître. Mais il est allé à l'étranger, il a réalisé à l'étranger, il a réalisé tellement de choses, et puis il était publié dans les revues. Donc, aucun élève sérieux qui voulait voir l'avenir était obligé de lire et relire Le Corbusier, qui, à mon avis, était un impact fondamental sur le rejet du classicisme.
C'est comme ça que vous avez envie de partir à la découverte du monde, très jeune, parce que là, vous partez quand même.
J'ai vu qu'il y a lui, mais je me suis dit, tous ces grands hommes, pourquoi sont-ils devenus aussi grands? Je me suis posé la question. Y a-t-il un autre langage entre eux? Y a-t-il d'autres? Et je me suis aperçu en arrivant chez Alvar Aalto, comme chez Le Corbusier, que c'était une puissance de travail continue et avec la main, toujours au service de l'esprit, mais bien discipliné pour aller dans le sens positif. Et ça, c'est très important. Très, très important.
Votre tour du monde, en effet, qui va durer 10 ans, parce que me paraît important, commence par justement chez Alvar Aalto, en Finlande, où vous êtes stagiaire. Racontez-nous.
Je suis resté là-bas. J'ai visité toutes ses réalisations dans les forêts finlandaises. Je l'ai accompagné plusieurs fois. Je suis allé à Turku, à la fabrique de son père, où on faisait les meubles en bois courbé, qui était quelque chose que nous voyons tous les jours dans la rue Bonaparte, exposé. Et là, j'ai pu voir la fabrication. J'ai donc fait le tour, Viipuri, la bibliothèque, partout où je suis allé.
Qu'est-ce que vous avez retenu?
J'ai retenu que cet homme, c'était un homme de détail. Vraiment le détail. Le détail, et en vérité, c'était un homme aussi qui absorbait l'urbanisme en grand. Il savait voir l'urbanisme en grand.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire composer des éléments de ville sans vraiment avoir de volume dominant extraordinaire, mais avoir des rythmes qui se retrouvaient partout. Et dans chaque rythme, il y avait une réflexion qui correspondait à la fonction. Donc, c'est de l'architecture organique, fonctionnelle, mais la fonction apparaissait à travers ces bâtiments. Et ça, ça m'a toujours surpris.
C'est quelque chose que vous avez gardé, puisque vous l'utilisez comme outil critique.
Oui.
Je vous ai entendu, on peut parler du paysage des banlieues. Vous parliez tout à l'heure de Singapour.
Oui.
Les villes, à propos d'urbanisme, ont-elles perdu en harmonie?
Écoutez, je vais vous dire une chose. Je connais la ville de Dubaï. Je connais la ville de Doha au Qatar. Je connais Abu Dhabi, bien sûr, depuis 30 ans que je suis par là. Je veux vous dire que ces villes, Abu Dhabi s'est construit sur la mer. Petit à petit, on a pris du terrain. Tandis que Dubaï, on est allé sur la mer faire des tas de sable sur lesquels on a construit. Et à mon avis, c'est une très mauvaise expérience. La véritable expérience, c'est bien Singapour qui l'a trouvée, agrandit sa ville en kilomètres carrés et construit dessus, suivant un urbanisme très organisé, organique, où des relations étroites avec le passé sont traitées, allant dans le domaine des communications, du métro, des routes, de la sécurité, tout y est prévu. Donc c'est une qualité de vie qui a été exportée sur la mer, mais sur un terrain acquis, c'est-à-dire acquis avec ses fondations possibles, pas un terrain volé dans la mer. J'appelle le terrain volé dans la mer, c'est construire sur du sable. Construire sur du sable, ça veut dire que ça ne peut pas tenir.
Cette idée de durée est aussi importante et propre à l'architecture.
Oui.
Dans le métier d'architecte, il y a un savoir-faire technique, puis il y a une part de création. Peut-être qu'on va parler de peinture, mais comment cette part de création s'est révélée chez vous et comment est-ce que vous la cultivez?
Je la cultive toujours parce que je suis parti dans le béton, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais du béton, je suis passé à l'acier. De l'acier, je suis passé au bois, car tous ces matériaux, bien que l'acier est un matériau mécanique, quand je travaille avec du bois, c'est un matériau naturel. Je l'utilise avec sa complexité, sa résistance et sa fonction. J'ai des exemples assez extraordinaires. À Luxembourg, il y a la plus grande voûte en bois qui existe dans le monde, qui est traitée avec un dispositif extrêmement intéressant. Il y a aussi des voûtes très grandes en béton qui sont à côté, où il y a les piscines. Mais ce jeu d'architecture, même qu'en choisissant un matériau, à partir du moment où vous avez le matériau de base, il doit remplir des fonctions. L'homme cherche avant tout des lieux où il aura pouvoir s'exprimer et exprimer toutes ses fonctions. Donc, c'est encore de l'architecture organique, car il n'y a pas de question. Toute mon architecture d'origine est organique. Elle est fonctionnelle, mais elle est organique. Car si je couvre de grands espaces, il y a dessous ces grands espaces beaucoup de possibilités. Je l'ai démontré en acier à Doha, dans la fameuse Académie Aspire. L'Académie Aspire, qui couvre près de 300 000 m².
Ça, c'est un de vos derniers projets.
Oui, oui. C'est l'Académie sportive d'Aspire à Doha.
D'accord. L'architecture, vous dites que c'est l'art de l'accueil, de l'hospitalité. Vous nous parliez tout à l'heure d'Alvarado. C'est quelque chose qui permet de s'épanouir. Est-ce que c'est là l'empreinte durable du travail de l'architecte ?
Je crois qu'il y a une chose que j'ai bien écrite dans Entrée principale, dans laquelle je dis que l'architecture est quand même un élément qui est fait non seulement pour accueillir l'homme, mais pour en même temps lui créer une partie émotive. On doit trouver dans ces lieux l'émotion, on doit trouver, s'il y a des cimes harmonieuses de beauté, il doit les découvrir. Et c'est de là que j'emploie le mot thérapeutique, car je dis que l'architecture est un élément fondamental sur le plan thérapeutique, comme l'est la peinture, comme l'est la sculpture. La grande erreur de ce pays, ici, en France, c'est qu'on a construit des hôpitaux, ils sont tous abominables. Chaque hôpital que vous voyez, que vous visitez, vous apercevrez que ce sont des lieux où on exprime la fin de la vie d'une personne plutôt qu'on essaye de leur donner un espoir pour la continuité dans cette vie. Car c'est autre chose, la vie d'un hôpital, c'est autre chose. C'est pour ça que je parle de thérapeutique.
Vous dites à propos des hôpitaux, il existe des hôpitaux et des cliniques dans lesquels sont installées des œuvres d'art de qualité, c'est-à-dire des œuvres qui invitent, tout à fait librement, les malades à se retrouver en eux-mêmes, à retrouver, si l'on peut dire, leur chez-soi. Et chez vous, le chez-soi, c'est très important. À retrouver, si l'on peut dire, leur chez-soi à l'intérieur d'eux-mêmes. Il s'agit d'une réflexion tout à fait passionnante sur la nature de la maladie qui peut être comprise, notamment avec la douleur, comme le fait de se retrouver hors de chez-soi. L'œuvre d'art est pour moi comme une fenêtre vers l'intérieur de soi.
Et bien sûr, c'est sûr que c'est ça. L'œuvre d'art est là, elle doit, je vous dis, créer une partie émotive, permanente. Vous entrez dans un hôpital où les œuvres d'art sont là. Quel est l'intérêt ? Vous arrivez avec dans la tête, je vais peut-être avoir un cancer ou autre chose. On rentre, on est dans un hall, on voit les plus grands tableaux qui sont là, présentés. On entend une musique qui est particulière. On va rentrer dans un lieu où un médecin va vous accueillir, où là aussi vous baignez dans les arts, c'est la même chose. Mais aussi, si ce hall d'accès, si l'architecture de ce lieu qui va vous accepter pour rentrer déjà exprime quelque chose sur l'avenir, c'est totalement différent. Parce que l'être humain qui pénètre un lieu où, par les volumes construits, organiques et fonctionnels, on voit l'architecture de demain, donc, on pense par la thérapeutique, toute la thérapeutique entre en jeu et influe sur le corps humain pour lui dire « nous allons vers un lieu de repos, de traitement et de qualité ». Ceci est très, très important. D'ailleurs, j'écrirai un nouveau livre sur la thérapeutique, sur l'influence possible sur l'homme, dans tous les domaines.
Pour vous, le sens d'une juste, entre guillemets, juste, hein, d'une juste architecture, c'est de faire en sorte qu'un bâtiment serve à la fois aussi à côtoyer les autres et à se retrouver soi-même.
Se retrouver soi-même, découvrir, s'il vous plaît, découvrir. Découvrir des choses inattendues, ce qui vraiment mobilise l'esprit de l'homme ailleurs. Il faut le mobiliser ailleurs, mais pas sur son comportement personnel. Car quand vous rentrez dans un hôpital, c'est un système égocentrique. L'être humain ne pense qu'à lui. Vous comprenez ?
Et vous avez trouvé dans l'utilisation de la courbe une alliée justement qui sert cette œuvre architecturale.
La courbe, pour moi, la courbe est sans arrêt autour de moi. La courbe vit avec l'homme. La courbe vit. Vous êtes devant moi, vous êtes rempli par des courbes. Votre distinction physiologique s'applique sur des courbes, sur des formes qui sont... Vous regardez l'univers, vous êtes en avion, vous survolez, vous voyez partout des courbes. Donc, tous ces éléments de géométrie courbe, la courbe est quelque chose d'accueillant qui rentre dans l'esprit de l'accueil humain.
On pourrait dire de votre architecture que c'est une architecture de la courbe ?
Il y a beaucoup de courbes dans mon architecture. Il y a forcément quelquefois, quand je fais des laboratoires, je fais aussi des locaux, pas forcément avec l'angle de 90 degrés, non. Je cherche aussi de retrouver des courbes.
Si on prend l'exemple de vos stades, par exemple, si on prend l'exemple du Parc des Princes, qui en 72, dont l'inauguration en 72 a été, pour vous, la rencontre avec le succès international... C'est une structure qui est visible et où, justement, sont toujours mis en relation l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est une de vos préoccupations. Mais c'est justement une courbe sans point d'appui, ce fameux Parc des Princes.
N'oubliez pas que le Parc des Princes, c'est la première fois dans le monde où on arrivait à franchir des porte-faux de 50 mètres. Et depuis, je suis allé jusqu'à 100 mètres. Alors, avec un dispositif de la technique dont l'origine est bien française au début, mais je l'ai croisé, cette technique, pour pouvoir arriver à faire ce dispositif que vous avez de porte-à-faux. Je fus donc le premier à croiser cette technologie et de m'en servir au Parc des Princes, ce qui a fait ce stade.
Vous avez acquis une grande technicité dans l'art de la pré-contrainte.
Mais cette pré-contrainte, elle s'est développée en Amérique du Nord. Ce fut le choix des Canadiens pour leur stade, ce qui a permis de livrer un stade dans les délais prévus. Vous l'avez peut-être lu quelque part. Mais ça a été beaucoup plus loin. C'est qu'un ingénieur français, Muller, a ouvert un bureau sur toute la Floride et une grande partie des ponts de Floride sont faits en pré-contrainte. Alors qu'en Amérique, on n'utilisait que l'acier. Tout était fait en acier, la pré-contrainte n'existait pas. Les Américains n'utilisaient pas ce dispositif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont fait la guerre à Montréal, il n'y a pas de mystère. Dès le départ, dès qu'ils ont su que j'étais là, ils ont attaqué le béton en disant que la solution, c'était l'acier, mais pas la pré-contrainte.
Il faut peut-être expliquer en deux mots pour les gens qui ne connaissent pas bien l'architecture, quel est l'avantage de la pré-contrainte ?
La pré-contrainte, son avantage particulier, c'est que vous réduisez la quantité de béton. Quand vous traitez sous des contraintes de plusieurs centaines de tonnes avec les appareils, les câbles qui sont à l'intérieur, vous réduisez non seulement la section de béton, mais qui dit section de béton dit poids. Car un mètre cube de béton, c'est 2,5 tonnes. Si vous le réduisez d'un tiers, vous voyez, vous faites des réductions. Donc, quand vous voulez construire, c'est une économie, mais c'est aussi une économie dans la construction, dans la manipulation des objets. C'est très, très important.
Aux États-Unis, au Canada, vous avez donc conçu ce fameux stade olympique qui est devenu l'emblème de Montréal.
Oui.
Effectivement, cette pratique n'était pas très développée. Vous avez été mal accueilli.
Et
l'histoire de ce stade est à lui seul plus qu'une aventure. Ça a été un véritable combat pour vous.
Oui.
Vous avez eu des démêlés et il vous a fallu être très tenace. Et pour revenir sur les déboires de ce qui est devenu pourtant l'emblème, et ce qui est l'emblème aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que cet immense chantier a eu des déboires financiers et autres.
Puis la presse.
Plus que ça.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, les médias et la presse, ce n'est pas toujours la logique de l'explication de l'architecture. Il faut faire très, très attention. Je me méfie de la partie médiatisation, complètement.
Vous avez été échaudé par cette expérience. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est non pas amusant, mais que vous avez relevé, c'est comment justement des bâtiments d'aujourd'hui s'intègrent si bien dans le paysage médiatique. Je pense au stade olympique de Pékin, dont j'ai lu que vous aviez que vous avez visité, mais vous dénoncez le fait qu'il est presque fait pour l'image, pour être montré à la télévision.
Non, mais attendez, là, c'est l'architecture du papier peint. Je vais rentrer dans un autre espace où excès et exubérance interviennent. Voilà. Pourquoi ? Parce que, comment se fait-il qu'on prend la corbeille de ma grand-mère où elle mettait ses œufs et avec ce tresse de corbeille d'osier, on va faire de l'architecture ? Ce n'est plus possible. Il y a un problème. Ou on trahit l'œil humain ou on trahit la pensée humaine quand on fait de l'architecture comme ça. C'est la même chose pour notre pavillon à Shanghai. Hein. C'est la même architecture.
Une architecture des faux-semblants ?
Oui. Tout à fait.
Au début de l'entretien, on a parlé de l'empreinte durable du travail de l'architecte.
Oui.
Est-ce qu'on peut aborder maintenant la question de l'empreinte écologique des bâtiments ? Est-ce que, selon vous, cette empreinte est devenue désormais primordiale ? Est-ce, selon vous, l'empreinte primordiale sur laquelle doit travailler l'architecture d'aujourd'hui ? Parce que ce sont des débats en cours.
Non, mais ce sont des débats en cours. Mais je ne suis pas sûr que quand je regarde ce qui s'est passé à Copenhague ou à Grenelle, que ce soit les éléments d'entraînement de la création de demain. Je ne sais pas jusqu'à quel point demain on finira pas avec des maisons en carton, parce qu'il paraîtrait qu'il y a 4 milliards d'hommes ou d'êtres humains qui n'ont pas de logement sur cette planète. Il faudra bien trouver une solution un jour. J'écoutais l'autre jour M. Lafont, président des ciments Lafarge, qui expliquait qu'il fallait trouver des solutions. Mais là, je ne suis pas sûr que ce soit le béton. Je pense qu'il faudra trouver des solutions très légères pour arriver à capter et donner des lieux, si on peut dire, de rassemblement des familles et ne pas les laisser à l'aventure. Alors, vous parlez de l'environnement. Bien sûr, il y a toujours, quand on réfléchit sur un problème, on traite l'environnement. La nature intervient dans le bâtiment. Elle n'est pas laissée de côté, ce n'est pas vrai. Mais peut-être qu'il y a des lieux qu'il faut choisir pour vraiment délivrer des zones d'habitation. C'est un petit peu les erreurs des banlieues, où on n'a pas choisi des lieux où les communications étaient faciles, où la nature était encore présente et elle pouvait faire comprendre que l'être humain vivait dans un lieu, pas d'extase, mais au moins de repos, parce que la nature apporte le repos.
Le repos, l'apaisement. Êtes pour une architecture de l'apaisement. Ça coïncide avec votre sens de la mission thérapeutique
l'architecte. Toujours, ce mot thérapeutique va très loin, très très loin, si on l'utilise.
Quel regard portez-vous sur la créativité des jeunes générations d'architectes, ceux que vous avez rencontrés ?
Écoutez, je suis là-dessus un peu déçu, parce que je m'aperçois qu'on utilise beaucoup des copies de réalisations existantes et qu'on les... À part quelques grands noms qui sortent sur ce qu'on appelle signature, on est un peu gêné pour faire l'analyse globale. Il y a une espèce de pollution, je dirais, d'architecture qui est souvent de la répétition de choses connues et c'est très ennuyeux d'avoir des copies ou des appréciations de bâtiments à d'autres bâtiments, des relations.
Qu'est-ce que vous décelez de ce que vous voyez aujourd'hui parmi ceux qui créent en architecture, puisque c'est votre domaine ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir se développer que vous ne verrez pas ? Ou peut-être que ça se fera dans 2 ou 3 générations ?
On doit répondre sur plusieurs choses. Vous avez le logement qui est la priorité de l'homme. C'est le logement qui est la priorité. Alors, vous ne pouvez pas traiter le logement comme vous traitez une école, comme vous traitez un lycée, où c'est un lieu où vous devez apprendre. Dans le logement, c'est la famille qui doit vivre. Et ce qui s'est passé dans nos banlieues, c'est qu'on n'a pas donné des lieux pour les familles et que les enfants sont dehors, livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire que la famille a éclaté, l'architecture n'a pas permis la relation familiale. Moi, j'ai été élevé dans mon village, dans une maison où mon père, ma mère, on prenait le déjeuner le matin, le dîner le soir et à midi, tout le monde se retrouvait. Le journal était lu, on discutait des choses importantes, politique ou pas, on écoutait la radio. À ce moment-là, on avait la radio. Et on était très heureux de savoir ce qui se passait dans le monde à travers la radio seulement. Mais maintenant, les choses ne sont plus semblables. Et c'est pour ça que le logement que vous voyez, on a essayé tout autour de Paris. On a essayé des camemberts. On a essayé la fausse architecture beaufilienne, c'est-à-dire le faux Versailles réhabilité. Alors que moi, Versailles, je n'ai pas un amour proche pour Versailles. Je vous le dis tout de suite. C'est quand même une répétition d'une architecture de fenêtres. Bon, puis l'intérieur, il est peut-être très beau, mais il s'adresse à une autre génération de l'homme, à celle qui a les moyens, celle qui a droit au spectacle. Le peuple n'a pas droit au spectacle. Il doit pouvoir jouir de la vie familiale de ses enfants. Alors l'architecture dans le domaine d'habitat a certainement une priorité que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu qu'elle soit traitée dans ce pays et même dans d'autres pays. Parce que j'ai vu en Chine, on les met dans des tours maintenant. Ce n'est pas la meilleure solution non plus. On libère le sol, mais on oublie que ce que nous entassons verticalement, il faut le stocker quelque part. Accès de sécurité, circulation, tout est là, soins médicaux et autres. Vous ne trouvez pas ça dans toutes les tours. C'est un problème dès le départ. et la technologie, parce que vous avez des paquets d'ascenseurs, il ne faut pas que vous tombiez en panne. Enfin, toutes ces choses-là, mais vous ne pouvez pas, dans des tours de 300 mètres, aller mettre des familles. Ce n'est pas vrai.
Vous seriez partisan d'une destruction de ces barres d'immeubles qui peuplent nos banlieues et les mégalopoles
du monde ?
Moi,
je crois que...
Faut-il détruire pour reconstruire ? Est-ce qu'on pourrait commencer ?
Je ne sais pas s'il faut les détruire complètement, mais je pense que ce qui était 3 pièces de devenir 6 pièces, c'est sûr qu'il y a une réduction. Il faut donner de la surface à la famille. Il ne faut pas que les gosses se trouvent dans les escaliers, aller chercher de la drogue et fumer la drogue. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas la police qui réglera ce travail. Ce n'est pas vrai. La police est impuissante devant un tel déferlement de destruction des familles. Parce que les parents n'ont plus la main sur les familles. Moi, je ne sais pas, j'ai appris, étant jeune, le soir, le père demandait d'où on venait, qu'est-ce qu'on allait faire, qui on avait fréquenté. Tout ceci n'existe plus. C'est la livraison de l'être humain à lui-même. Et pas lui-même, à ses proches qui sont peut-être plus ou moins pollués. Donc, on a créé la pollution humaine. Alors, on est loin de la thérapeutique.
On ne peut pas vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance, ce que vont découvrir petit à petit les 5 sens. Un jour, mes parents ont posé leurs valises, alors voilà, ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas. Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas, ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles. Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style. Je viens de là où le langage est en permanente évolution. Verlan, rebeu, argot, gros processus de création. Chez nous, les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous. Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vanne. Un DEA de chambrette, une répartie jamais en panne. Intelligence de la rue, de la démerde ou du quotidien. Appelle ça comme tu veux, mais pour nous carotter, tiens-toi bien. On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans. On a l'insulte facile mais un vocabulaire innovant. Je viens de là où dans les premières soirées ça danse déjà le break. Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec. Je viens de là où on aime le rap.
Roger Taillibert, vous avez été élu en 1983.
Ça fait très longtemps.
Ça fait, oui, j'allais vous dire.
Je suis là depuis trop longtemps. J'ai eu la chance d'être 2 fois président d'académie,
oui.
Plus président de l'Institut l'année dernière.
Oui, qui vous a permis de voir.
De voir beaucoup de choses,
beaucoup
de voir l'ensemble.
De voir les 5 académies.
Dans lesquelles j'ai lancé le problème du doute.
Ah.
Parce que le doute, c'est un instrument très spécial pour l'homme qui ne doute pas. Car un architecte doit douter.
Un architecte doit douter. Vous avez réfléchi sur ce doute.
Ah oui, je réfléchis parce que j'ai pensé que c'était un des éléments majeurs de la vie de l'homme, le doute.
Est-ce qu'à 84 ans, vous doutez toujours, mais vous travaillez toujours aussi ?
Je travaille, c'est vrai.
Quels sont vos projets actuels, Roger Taillibert ?
Actuellement, je termine sur Doha. J'ai encore quelques stades en construction à Abu Dhabi, dans la partie des Émirats.
Et tout à l'heure, vous me disiez que la tour
de Doha,
oui. Dans 3 mois,
ah,
c'est terminé.
Oui, il y a 6000 ouvriers actuellement, ils terminent.
La plus haute du monde ?
Non. De Doha. La plus haute du monde est à Dubaï.
Dubaï.
Elle est faite par des Américains, pas par des Européens.
Pour vous, qu'est-ce que ça représente, cette tour sur Doha ?
Sur Doha, ça représente un client. Je ne sais pas si c'est l'harmonie. Je me trouve au milieu d'autres tours, oui. Dont certaines ne sont pas terminées, parce qu'il y a quand même des problèmes financiers et tout ça. Alors, on arrive dans un champ où des grues sont là, attendent, ne tournent plus, les chantiers sont arrêtés. Cette tour, c'est quand même un symbole de la vie. Parce que pour un hôtel, je trouve que c'est quand même une très bonne réponse.
C'est un hôtel.
Oui.
Ça sera un hôtel.
Oui, c'est hôtel, c'est l'hôtellerie. C'est une très bonne réponse car il y a une visibilité sur le désert et sur la mer. Mais c'est quand même très important d'avoir la visibilité sur la mer. La ville n'est pas grande, c'est une petite ville, Doha.
Racontez-nous.
C'est une petite ville. Vous savez, je ne crois pas qu'elle dépasse le million d'habitants. Mais elle a beaucoup grandi. Elle a beaucoup, beaucoup grandi. Et de nombreuses tours ont sorti, toutes d'un aspect différent. Certaines sont traitées par des hautes signatures. Mais je ne sais pas si toutes sont faites pour ces lieux où le soleil est présent avec une force extraordinaire. Car nous vivons toujours à 40 degrés de température.
À Doha.
Et quelquefois à 70 degrés.
Alors, vous avez donc conçu cette tour qui s'appelle Silhouette.
Oui.
Et les éditions Somogy ont édité deux volumes de vos croquis. Mmh. Ça s'appelle Roger Taillibert Croquis. Et là, on a justement sous les yeux devant nous un de ces croquis. Est-ce que vous pourriez nous le détailler en nous présentant cette tour qui va être achevée d'ici trois mois, Monsieur Taillibert ?
C'est pratiquement terminé. Ici, vous avez le croquis schéma qui a permis de lancer l'opération. Elle est toujours avec des courbes très tendues qui vont vers le ciel. Et en partie inférieure, il y aura un banquet hall très important de l'ordre de 1000 m² dans lequel on fera les réceptions. Mais la majorité est réservée à l'hôtellerie. Hôtellerie de luxe et puis hôtellerie d'accueil par des logements privés qui seront gérés par la même société. Et au sommet, nous trouverons des salles de détente, de spa, piscine, qui dominent tout le sommet de cette tour et qui vous permettent de voir l'environnement sur le désert, sur la ville existante, sur les rives de la mer qui est là, le golfe arabe. Il y a donc traité en structure béton, toujours à l'intérieur, et le revêtement extérieur tout en verre. Je crois qu'il n'y a rien de très spécial, il n'y a pas de découverte dans le plan architecture. Il y a une utilisation rationnelle des noyaux avec les circulations rapides pour desservir la totalité de ces 60 étages.
Claude Parent a dressé de vous un portrait. Il a dressé le portrait de ses confrères architectes dans un petit livre très connu qui s'appelle « Portrait impressionniste et véridique d'architecte ». Vous êtes confrère, vous connaissez très bien son humour, son sens du croquis aussi par la plume. Et disant de vous, il y a un très très beau portrait qu'il a fait de vous. Comment vous l'avez reçu?
Je crois que j'ai reçu ce livre, mais est-ce que je l'ai regardé? Je ne sais pas.
Il commence par dire c'est une figure.
Oui.
Voilà, une figure, un grand solitaire finalement qui trace son chemin régulier en dehors de toute appartenance au moindre groupe ou groupuscule, hormis celui de l'Institut. Immortel, la chevelure qu'on ne lui a connue que d'un blanc étincelant, le profil tourmenté d'un comte d'Authière à la française, portant beau et capable de donner vie et éclat au triste uniforme des académiciens, Roger Taillibert a le verbe haut en toutes circonstances.
C'est ça.
Voilà, bon alors, il fait deux pages, le portrait. Et il dit de vous, Roger Taillibert, en tension permanente, traite parfois de chef d'État à chef d'État. Là est son élément, là est sa réussite. Il jouit quand il traite d'égal à égal avec le pouvoir. Croyez-moi, ce n'est pas donné à tout le monde. Couey s'y est essayé, Jean Nouvel parfois se hisse jusque-là. Attention, on s'y brûle les ailes. Mais notre Taillibert n'a vraiment peur de rien. S'il frôle le pouvoir, c'est pour mieux se frotter à sa démesure. Cet homme n'aime que ce qui est grand, énorme, les stades le comblent d'aise, d'objets de ses défis, de ses prises de risques. Faire le Parc des Princes à cheval sur le périphérique, transformer Montréal pour les Jeux Olympiques, pour lui c'est naturel. Paul Andreux et lui sont dans le même univers, celui de l'espace dilaté au-delà du possible. En outre, ils sont collègues membres de l'Institut, mais ils ne s'aiment pas. Ils partagent trop l'amour de la structure pour en causer doucement autour d'une tasse de thé. Dommage, car ce sont tous les deux, chacun à sa manière, deux lyriques qui s'ignorent. C'est la plume de Claude Parent. Vous vous reconnaissez un petit peu dans ce portrait ?
Oui, je suis plutôt un homme isolé, seul, vous savez. Alors, mais j'ai toujours été seul parce que depuis que j'ai eu la malchance de me trouver occupé avec les Allemands et de pouvoir, sous un faux nom, éviter d'aller en Allemagne et de les poursuivre, parce que j'ai quand même fait du mal aux Allemands, il m'est resté quelque chose d'une vie solitaire et secrète.
Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous dites que vous avez fait du mal aux Allemands ?
Parce que, vous savez, quelquefois avec des armes, on peut faire du mal.
Parler de la résistance. De la résistance, cette expérience.
Combien de fois je suis la nuit allé chercher des armes par les Lancaster qui nous livraient des paquets d'armes et tout. Ouais, j'ai vécu tout ça. Vous savez, ils sont venus chez moi, ils ont tout mis à sac. Ma mère avait peur, demandait ce qui se passait. Ils vidaient la bibliothèque, vidaient les armoires, mais n'ont rien trouvé parce que je n'avais jamais rien dit. Mon frère est au courant de rien, ni mes parents, ni ma mère, heureusement.
Vous êtes né en 1926, donc vous étiez effectivement jeune, adolescent, et avec ce courage qu'ont eu beaucoup de personnes du même âge.
Je n'ai gardé qu'un ami. Les autres sont morts, fusillés, ont été dans les fermes ou partout où ils ont été pris. Un seul vit encore et il vient me voir tous les samedis pour me raconter les histoires que j'aurais pu oublier. Qu'un tel a dénoncé ceci, qu'un tel a dénoncé cela. C'est terrible cette époque.
Et une époque où vous avez fait l'expérience justement de votre maison occupée.
Oui.
Et où vous avez fait cette expérience d'être hors de chez vous. Et ce chez-soi dont vous parliez tout à l'heure, qui compte tant.
Je me rappellerai longuement de ça, parce qu'on nous a poussés dehors, on a pris les chambres, on a pris tout, et l'armée a occupé.
De ce côté, donc, vous disiez isolé, mais silencieux aussi. Vous n'êtes pas du genre à vous étendre sur votre vie.
J'évite, je reste ça avec beaucoup de pudeur, je ne parle pas de ces choses-là, le moins possible, parce que j'ai vu trop de choses mauvaises. Vous savez, j'ai récupéré des aviateurs américains et tout, dans des états quelquefois. Mais je devais le faire pour les sauver.
Roger Taillibert, est-ce que votre épée d'académicien, est-ce qu'elle dit quelque chose de ce silence, de ces blessures et de votre passion ?
Non, elle ne dit rien. Elle met simplement en évidence la tour, la seule tour oblique qui existe dans le monde, qui n'aura jamais plus de sœur, parce qu'on ne fera jamais une tour oblique nulle part. Aussi penché, pas près de 45 degrés d'angle.
La tour du stade.
Du stade.
Pour
oui.
que nos auditeurs comprennent, c'est effectivement le stade de Montréal.
L'on peut visiter, puisque tous les touristes vont là-bas pour visiter, prendre le funiculaire et monter au sommet et voir la ville.
Merci beaucoup, Roger Taillibert. Merci d'être venu nous parler longuement de votre vision de l'architecture, de votre œuvre architecturale, d'avoir parlé aussi de ce qui vous tient à cœur dans votre métier d'architecte, et puis peut-être de nous avoir tout simplement dit l'importance de construire aussi des structures sans faux-semblants, et de votre conception de la forme conçue comme une œuvre d'art. Peut-être. Alors je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien, cette fois dans votre atelier de peintre, où nous pousserons la porte pour mieux vous rencontrer.
Très bien.
Merci, monsieur.
Je vous en prie. Vous savez, je suis un albatros.
Je vous remercie.